With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif ? Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Camille, c'est l'histoire d'une maman qui ne voulait pas allaiter, qui se fait surprendre tant par la beauté que la complexité de l'allaitement. Les routes de ses 2 premiers allaitements ont été semées d'embûches et le manque d'infos, ça la connaît. Camille en a fait les frais et elle a décidé que les autres mamans ne devaient pas vivre la même chose. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Camille Lolo Helpeuse sur Instagram. Elle accompagne et oriente les mamans vers des professionnels formés. Elle nous parle dans cet épisode de presque toutes les phases de l'allaitement avec son œil de maman très informé. Je profite de cette petite introduction pour la remercier une énième fois d'avoir par son soutien participé à l'élaboration de ce podcast, d'avoir donné son avis sur le podcast lui-même, le nom, le logo, les idées alors que sa grossesse arrivait à sa fin et qu'elle avait bien d'autres chats à fouetter, comme on dit. Depuis que je l'ai interrogé, son petit Anatole est arrivé. Il est évidemment allaité, et j'ai déjà hâte de pouvoir la réinterroger sur cette nouvelle expérience. Félicitations Camille pour ce magnifique bébé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Camille et bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors Camille, raconte-nous, qui es-tu ?
Alors, moi je suis Camille, sur les réseaux sociaux on me retrouve sous le nom sur Instagram de Camille Lolo Helpeuse. J'ai été marraine référente d'allaitement pour l'association L'Or Blanc, marraine d'allaitement, et j'aide les mamans, je fais du soutien de mère à mère en fait sur les réseaux dans le monde de l'allaitement.
D'accord, ok. Et alors depuis combien de temps tu allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants ?
J'ai 2 filles, ma première a 7 ans et quelques, je l'ai allaitée 3 mois, et ma deuxième a presque 3 ans, aura 3 ans en septembre, et je l'allaite toujours.
D'accord, ok. Alors, est-ce que tu t'étais fait une idée de l'allaitement avant de commencer à allaiter ? Quel était ton ressenti autour de l'allaitement ?
Oui, pour ma première, clairement, c'était « je n'allaiterai pas ». Pendant une grosse partie de la grossesse, parce que ça abîme les seins, parce que je veux que papa participe, parce que plein d'idées reçues que j'avais en fait là-dessus, je m'étais mis en tête que je n'allaiterais pas de toute manière.
D'accord.
Voilà, et puis pour ma deuxième, après c'était une évidence.
D'accord. Alors comment t'es passée de ce « non, j'allaiterai pas » à « j'ai quand même allaité 3 mois pour la première
» Eh ben, je suis passée à ça grâce à ma fille qui a fait une montée au sein fabuleuse après un accouchement qui a été très compliqué. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, on va essayer. J'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire. Du coup, l'allaitement a été assez écourté. Voilà, j'ai juste écouté mon bébé qui est monté au sein le jour de l'accouchement et j'ai dit, bon, bah, allez, je tente. On verra.
Pourquoi pas?
pourquoi pas. Et j'ai regardé mon mari, j'ai dit, ça te dérange pas? Il me dit, bah non. Enfin, une maman, ça a des seins pour allaiter, donc vas-y. Enfin, il était hyper ouvert et du coup, ça m'a boosté, je pense aussi.
Ok, et alors comment ça s'est passé, du coup, cet allaitement?
Bon, j'y suis allée au feeling en écoutant énormément les médecins, les personnes médicales. Donc, au deuxième jour, elle avait la tétine dans la bouche parce qu'elle avait un trop fort besoin de succion. Elle avait des biberons rapidement, mais pas forcément de mon lait parce que j'avais la flemme de tirer mon lait et je voulais que papa participe. Voilà, enfin c'était que des choses comme ça. Il s'est avéré que ça a été précipité parce que j'ai perdu quelqu'un de ma famille, donc j'ai eu un choc émotionnel qui a fait que j'ai eu une baisse de lactation. Et là, si j'avais été informée, j'aurais pu le rattraper. Mais là, n'étant pas informée, j'ai écouté mon médecin qui m'a dit arrêtez de la faire souffrir, donnez-lui que des biberons et puis ça passera bien comme ça. Donc ça s'est terminé.
Ah oui, arrêtez de la faire souffrir.
Ouais. du coup, d'accord. La petite ma puce pleurait beaucoup au sein et il y avait plus l'offre pour la demande, donc c'était compliqué à ce moment-là. Donc, voilà.
Et comment t'as tenu 3 mois? C'est au bout de ces 3 mois justement que t'as eu cet événement traumatisant qui.
Ouais, mais ça s'est fait quand même assez petit à petit. Hein. Petit à petit, il y a les tétés qui étaient remplacés quand même par des biberons. J'étais plus sur un allaitement mixte au bout de 2 mois. J'étais plus sur un allaitement exclusif au bout de 2 mois. Ça se serait fait sûrement plus tard. Là, ça a été précipité par le fait que j'ai eu une baisse de lactation suite à ce choc émotionnel. Quoi qu'il arrive, c'était en route pour un sevrage.
D'accord, ok. T'avais des douleurs ou non? C'est
jamais.
Simplement que ça s'est pas bien mis en place. T'as jamais eu mal?
Non, j'ai jamais eu mal. J'ai jamais okay. rien eu. Et ça aurait pu être un allaitement idéal parce que ma fille n'avait pas de frein restrictif et ça, je l'ai appris qu'après, en fait. Ça aurait
d'accord.
pu être parfait. Mais
qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné au démarrage alors exactement? Est-ce que tu arrives à savoir quel point on fait que ça a été un échec dans ton cas?
Je n'étais pas informée. J'étais pas du tout informée, je m'étais pas entourée des personnes qui étaient informées, je ne connaissais ni l'existence des IBCLC, donc des consultantes en lactation IBCLC, ni les marraines ou la Leche League ou quoi que ce soit, je savais même pas qu'il existait tout ça, pour moi c'était quelque chose de naturel l'allaitement, donc ça se ferait tout
oui,
seul.
Oui, et puis tu débarquais complètement en fait. Parce que tu pensais même pas allaiter la veille et puis le lendemain t'as
au
sein.
Je me suis dit que le médecin traitant ferait très bien jouerait très bien son jeu dans les conseils pour allaiter, étant donné qu'il s'occupait de toute la santé du nourrisson. Pour moi, ça en faisait partie, c'était évident. Donc j'écouterais ses conseils, quoi.
D'accord. Et donc c'est les histoires de tétine, de compléments, etc. Tu penses qui ont généré ce manque de lactation finalement dès le départ et qui s'est aggravé avec le temps. Et ça a précipité la fin de l'allaitement. Et alors, ton deuxième allaitement, qui lui dure toujours, qu'est-ce qui a été différent? Comment ça s'est passé? Raconte.
Alors, avec mon mari, on s'est énormément informé. On s'est renseigné sur tout ce qui existait pour pouvoir nous aider. Il faut savoir qu'il y a 2 ans et demi, c'était pas encore aussi, je trouve, on parlait pas encore autant des consultantes en lactation IBCLC non plus quand même. On n'avait pas de marraine d'allaitement en France. Enfin voilà, il y avait quand même des choses qui.
Ah, c'est très récent ce système de marraine d'allaitement.
Ouais. Ça date depuis septembre, il y a 1 an. Bah du coup bientôt 2 ans. Mais non, c'est ça, il y a 1 an. Ça fait septembre 2019 ou 2018, je ne sais plus. Mais c'est très récent et c'était tout petit en 2018. Encore.
D'accord, ok. Donc c'est l'Or Blanc Association qui a un réseau de marraines en France d'allaitement, de mamans allaitantes un peu expérimentées, en fait, c'est ça, qui accompagne d'autres mamans allaitantes débutantes.
une expérience d'allaitement réussie de plus de 6 mois en exclusif.
D'accord.
Et voilà, pour pouvoir se soutenir les unes les autres, se envoyer les mamans chez des professionnels de santé qui sont formés, voilà, arriver à créer ce petit réseau.
Donc toi, t'as pas eu accès à ça quand ta fille est née?
Non, pas du tout. Ma fille est née prématurée. Elle est née à 35 semaines. Pour selon, elle savait se nourrir seule au sein et elle savait se réchauffer seule. Enfin, c'était pas un grand prématuré. Donc là, le début d'allaitement a été difficile parce que l'hôpital n'était pas pour ce qu'elle soit allaitée, étant donné qu'elle était préma, ils voulaient pouvoir contrôler les quantités. Donc il y a eu des premiers bâtons dans les roues qui ont été mis à ce moment-là. Sortie de la maternité, ça a été bien dans les premiers temps parce que pas de douleur, tout se passait bien, elle tétait bien, elle passait à peu près 20 heures sur 24 au sein, mais à vrai dire, je me posais pas trop de questions. Pour moi, c'était normal. Elle faisait son quatrième trimestre, donc elle venait juste de sortir de mon ventre. Voilà, je me posais pas de questions. Et puis au fur et à mesure, la prise de poids a commencé à chuter jusqu'à arriver à du 4 grammes par jour au lieu de du 20 à 30 grammes attendu.
D'accord.
Donc là, les médecins m'ont dit complément, etc. Et c'est une association québécoise qui m'a aidée à trouver le problème et m'orienter vers des professionnels de santé pour pouvoir diagnostiquer les freins restrictifs en fait de ma fille qui avait des freins postérieurs. D'accord. Donc en gros, elle avait des difficultés de succion avec une mauvaise mobilité de sa langue qui fait qu'elle stimulait mal la lactation et du coup recevait pas assez de lait. En gros.
D'accord. Et donc le sein s'est mis à moins en produire, d'où la baisse de lactation.
C'est ça. Donc, il a fallu tout relancer, tire-lait en parallèle, dispositif d'aide à l'allaitement au sein. Donc, c'est un petit tuyau que je mettais dans ce que j'avais tiré et qui allait dans sa bouche pour qu'elle puisse être nourrie en même temps qu'elle était au sein pour stimuler la lactation. Enfin, voilà, c'était tout un processus. Et puis, monter sur Paris.
Elle avait
pour
quel âge à ce moment-là?
Elle avait... quand on a fait couper le frein, elle avait 3 mois.
D'accord, ok.
Donc, c'était entre 2 et 3 mois.
Donc, t'es montée sur Paris voir un professionnel qui sectionne ce frein de langue restrictif.
Voilà. Sachant que à l'époque, on parlait pas de préparation pré et post fréno, il y avait pas voilà, on n'expliquait pas tout ça. Donc on parlait un petit peu du post fréno en disant qu'il fallait faire des massages pour pas que les freins se reforment pendant quelques jours, mais ça allait pas plus loin. Les massages pré frénotomie, on n'en parlait pas du tout. Enfin, on n'était pas encore informé comme maintenant quoi.
Oui, la frénotomie, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la section du frein de langue qui empêche la langue de bien se mobiliser. Et aujourd'hui, il est assez admis qu'il y a une préparation à faire en termes de mobilité et de massage autour de la langue, de la bouche, du crâne du bébé pour que la frénotomie se passe bien, soit efficace et un suivi à faire ensuite. Bah pareil pour que ça cicatrise correctement et qu'un autre frein, entre guillemets, ne se reforme pas après.
C'est ça.
Et donc, toi, tu n'as pas eu accès à tout ça, mais ça s'est bien passé quand même ?
Oui, ça s'est très bien passé. Donc, nous, je peux citer des noms. On allait voir le docteur Rousselet. J'ai le droit.
D'accord.
On allait voir le docteur Rousselet à Paris, qui est une perle extraordinaire. Et ça s'est bien passé. Elle avait un frein de lèvres et un frein de langue restrictif, un frein type 4.
D'accord, les deux.
Et puis du coup, après, on est reparti refaire nos 600 km pour rentrer et s'occuper des soins post-fréno.
Ok, donc tu as pu faire les soins post-frénotomie quand même. Tu t'étais assez renseignée sur ce sujet-là pour savoir qu'il fallait le faire.
Oui. Je m'étais informée, mais j'étais pas informée par contre pour les soins pré-fréno. J'ai vraiment appris au fur et à mesure en fait. Et puis je m'y suis énormément intéressée à partir du moment où ma fille a eu ce souci-là. Et c'est devenu
d'accord.
Passion les freins. Ouais.
Passion frein.
Mais j'ai vu que c'était un problème qui était en fait hyper récurrent et pas du tout diagnostiqué. Enfin, il y avait beaucoup de bébés qui passaient à l'as avec une lactation qui baissait ou alors une prise de poids qui baissait. Et là, on disait aux mamans, vous avez plus assez de lait ou pas assez nourrissant ou ci ou ça. Au bout de 2 à 3 mois.
Toutes ces phrases qu'on connaît bien.
C'est ça.
Quand on a allaité, c'est rare qu'on n'ait pas entendu à un moment soit qu'on manquait de lait, soit que notre lait n'était pas assez nourrissant si bébé ne suivait pas une courbe de poids parfaite.
C'est ça, ou même quand ce bébé va très bien, mais que le soir il réclame à gogo pendant des tétés groupées, mon Dieu, on n'est pas assez nourrissant.
Oui. Et alors une fois cette section de frein réalisée, les exercices post-frénotomie réalisés, est-ce que ça a été mieux ?
Oui, ma lactation est bien repartie. Elle a tété correctement. J'avais plus besoin d'utiliser le tire-lait. Elle reprenait une courbe de poids tout à fait normale.
Ok, super. Et donc après, ça a roulé ?
Comment, pardon ?
Je dis ensuite, ça a roulé. L'allaitement, c'était...
Oui, alors on a eu d'autres soucis en parallèle qui ont fait que ça s'est un peu compliqué parce que Azélie a eu des différentes maladies, malformations et a dû être avoir des traitements chirurgicaux. Donc du coup, on était beaucoup à l'hôpital et dans les institutions hospitalières et donc c'était plus se battre contre le personnel médical pour pouvoir maintenir l'allaitement. Où c'était difficile, on mettait beaucoup de bâtons dans les roues, mais sinon, en soi, l'allaitement, s'il n'y avait pas eu tout ça, ce serait continué très facilement.
D'accord. Le papa dans tout ça, comment il se sentait, quel œil il avait sur l'allaitement?
Hyper impliqué, c'est un lion. Le jour où je lui ai dit, bah écoute, enfin, je dois dire que ça n'a pas dû être facile à entendre, je lui ai dit, Enfin, on m'a dit, j'ai des copines sur Internet qui sont à l'autre bout du monde qui m'ont dit que ma fille a fait certainement un frein postérieur, qu'il faut qu'on monte sur Paris. Et je lui ai dit, j'ai appelé le professionnel, il a un rendez-vous dans 3 jours. chérie, on fait 600 kilomètres, allez, pour voir quelqu'un. Heureusement qu'il était là et qu'il était soutenant, parce que sinon, c'était pas possible, quoi. Enfin,
il a fondu. Donc, il t'a suivi, il était là pour toi, c'était ton épaule, tu pouvais te reposer sur lui, il te suivait à fond.
Ah oui, il a dit, mais s'il faut faire 1200 même kilomètres, s'il faut prendre l'avion, s'il faut partir demain, s'il faut partir dans la nuit, n'importe quoi, on y va, si c'est pour son bien, ton bien, et qu'elle puisse continuer d'avoir du lait maternel, on fonce, quoi. Donc, il a pas cherché à comprendre. Je lui ai dit, le lendemain, on a rendez-vous chiro. Il a fallu organiser tout un week-end en une soirée.
D'accord.
Voilà, il a toujours été à fond. Quand on s'est retrouvé hospitalisé plusieurs fois pour Azélie pour ses opérations, ensuite, il s'est toujours battu avec moi face aux équipes pour que j'ai pas à subir tout ça toute seule. Il lâchait pas.
Il te défendait.
Voilà, et c'était un lion, quoi. C'était un vrai roc dans l'allaitement.
Super. Et ce, jusqu'à aujourd'hui encore. Toujours. Génial.
Toujours. Il trouve toujours ça magnifique, alors que sa fille va avoir 3 ans et qu'on lui aurait dit ça à ses 3 mois. Il aurait dit, ouh, c'est un peu bizarre, 3 ans, un enfant au sein. Et maintenant, il regarde toujours avec des yeux pleins d'amour parce que, en fait, sa vision des choses a évolué en même temps que sa fille a évolué. Donc, pour lui, c'est tout à fait normal. C'est son quotidien.
Oui, ce qui était normal hier l'est tout autant aujourd'hui, voilà, et ce, jour après jour.
Exactement.
L'entourage, famille, amis, boulot, eux, ils voient aussi d'un bon œil cet allaitement qui dure.
Quand j'ai repris le travail, donc ma fille Azélie avait 2 mois et demi. Non, elle a commencé à la
Ah oui, donc relativement tôt. Enfin,
j'ai recommencé à 3 mois. J'étais à 50 heures par semaine parce que je travaillais et en même temps je faisais des études.
D'accord.
Et du coup, ça a été un petit peu compliqué, notamment à l'école, de faire accepter ça. Alors, les professeurs étaient un peu de mon côté, mais j'étais très absente pour les opérations. En parallèle, je demandais à avoir des pauses supplémentaires pour tirer mon lait. Mes collègues, mes camarades de classe, parce qu'en fait, j'étais en BTS, donc mes camarades de classe comprenaient pas trop. Voilà, c'était des petits jeunes qui étaient pas du tout dans ce mood-là. Donc, ça a été pas mal de réflexions. C'était la vache à lait, c'était ça va, la traite s'est bien passée. C'était déjà psychologiquement compliqué. Et je pense que si on n'est pas armé, là, ça peut vraiment démoraliser une maman, quoi.
Ouais, t'avais quel âge à cette époque ?
C'était il y a 3 ans, je vais avoir 29 ans, j'avais 25, 26 ans, 25.
Ouais, ils avaient le même âge que toi, les camarades.
Pas du tout, ils avaient entre 18 et 24, quoi, en gros. Mais
ouais, ils étaient beaucoup plus jeunes. Mmh. Oui, enfin, quand même. Des réflexions pas toujours très agréables.
C'était une formation un peu dans l'industriel, donc c'était beaucoup de garçons. Donc,
d'accord.
Très jeunes dans leur tête.
Qui comprenaient pas bien pourquoi tu faisais ça.
Ouais, c'était un peu compliqué pour eux, je pense. Ça faisait beaucoup de choses. Mais bon, j'aimerais dire aux mamans que c'est quand même possible de retravailler, de faire des études, d'avoir des galères personnelles en parallèle avec des opérations, des choses comme ça, du stress, et d'y arriver. J'ai fini major académique de ma promo, avec 18 et quelques de moyenne. Donc,
en allaitant.
Au BTS, en allaitant, et j'allaite toujours, et ma fille a toujours été au contenant alternatif chez Nounou, et ça s'est très bien passé.
Ok. Quel contenant alternatif ? Parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde.
Alors, on voulait éviter les biberons et tétines, étant donné que Azélie était un bébé à frein. Et même traitée, elle avait quand même une succion qui était un peu plus délicate que d'autres enfants, donc elle était plus à risque de modifier sa succion ou que ça puisse entraîner quelques soucis si on lui donnait des biberons. Et du coup, elle a eu la pipette au début, quand elle était toute petite, la soft cup, c'est un genre de petit récipient avec une petite cuillère en bec, en gros.
Exactement, oui, c'est comme une espèce de cuillère qui se remplit au fur et à mesure avec le liquide.
En fait, on a donné une dizaine de contenants à la nounou et on lui a dit, choisis ce qui toi te paraîtra le plus simple, ce qui fonctionne avec Azélie. C'était pas moi qui allais habituer Azélie à un contenant alternatif, c'est la nounou qui a décidé et qui a évolué. En fait, les contenants ont évolué avec Azélie. Après, elle a eu une tasse 360 arrêtée parce que je me suis fait mordre pendant des mois derrière. C'était très compliqué. Elle reproduisait exactement avec sa mâchoire supérieure ça sur mon sein. Donc, ce qu'elle faisait comme mouvement pour pouvoir boire à sa tasse. Et donc, du coup, après, on est passé au verre. Tout simple. Et si on avait su, je pense qu'on aurait essayé dès le début parce qu'elle était tout à fait capable, même à 3 mois, de boire au petit gobelet à la baby cup.
D'accord. Alors du coup, cette reprise du boulot à 2 mois et demi, c'est tôt et en même temps, c'est relativement classique en France. Voilà, c'est le délai normal de congé maternité post-accouchement. Ça t'a nécessité une grosse organisation. T'avais donc le tire-lait, c'est ça ?
Ouais.
Et c'est ça. Ces contenants alternatifs chez la nounou à mettre en place.
Ouais, c'était une sacrée organisation.
Ouais, grosse organisation. Jusqu'à quel âge ça a été contraignant, entre guillemets, cet allaitement, ce tire-allaitement pour la reprise du boulot ?
Pour le travail. J'ai tiré mon lait jusqu'à ce qu'elle ait 2 ans. J'ai arrêté à ses 2 ans. Alors, j'étais pas à 3 tirages par jour jusqu'à ses 2 ans. En gros, j'étais à 3 tirages jusqu'à ses 8 mois. Je suis passée à 2 et vers 1 an, je suis passée à 1 tirage par jour. Sachant qu'à ses 15 mois, elle a arrêté de prendre le lait chez Nounou. J'ai continué de tirer parce que je faisais don de mon lait depuis ses 6 mois au Lactarium de Lyon. Donc du coup, j'avais 1 tirage sur les 3 depuis ces 6 mois qui était prévu pour le Lactarium dans ma journée. Et puis après, 1 sur les 2. Et puis après, à partir de ces 15 mois, le tirage que je faisais, c'était uniquement pour le Lactarium. J'ai fait des dons de lait.
C'est pas toujours très connu. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne ?
Bien sûr. Alors, il y a tout un protocole au don de lait. Pour être accepté, il faut faire des examens de santé, une prise de sang notamment. Ça dépend des lactariums. Ils ont tous leurs règles, complètement différentes les uns des autres. Il faut appeler le lactarium près de chez soi sur le site Lactarium de France. Il me semble il y a les coordonnées pour savoir quelles sont les règles à respecter parce que certains ne prennent pas au-delà de 6 mois, par exemple. Le Lactarium de Lyon prend sans limite d'âge. J'ai une amie qui a donné jusqu'aux 3 ans et demi de sa fille.
Pourquoi une limite d'âge, tu sais ?
Oui, c'est parce que le lait peut donc s'adapte en fonction de l'âge de l'enfant et du coup pourrait ne pas convenir à des prématurés qui ont des besoins
supérieurs
en lipides.
Parce que le lait qu'on donne au Lactarium sont uniquement pour les prématurés, oui.
Ouais, c'est ça. Le lait qui est donné au Lactarium, on me demande souvent d'ailleurs ça sur les réseaux sociaux. Non, vous pouvez pas aller chercher du lait d'une autre maman dans le Lactarium. C'est réservé uniquement aux prématurés.
Oui, ça sert pas à une maman d'un bébé à terme qui aurait aimé allaiter mais qui, pour des raisons diverses, n'a pas réussi ou qui n'aurait pas envie mais qui voudrait bien que son bébé ait du lait maternel. C'est uniquement pour les bébés dont les besoins de santé le nécessitent.
Il y a déjà pas assez de stock souvent pour les petits prématurés, donc ça serait difficile de pouvoir nourrir plus de bébés que ça.
Oui, parce que c'est encore assez méconnu comme façon de faire.
Il y a des règles strictes. Hein. Le lait est extrêmement testé, donc il y a des pertes quand même. On sait qu'on donne tant de litres par mois, mais on ne sait pas exactement ce qui va être utilisé ou pas. Après, ils testent le lait, ils font en fonction.
D'accord. Et tu as donné combien de temps au Lactarium ?
Donc j'ai donné de ces 6 ou 7 mois, je crois, jusqu'à ces 2 ans. Donc un an et demi.
Super, bravo, génial.
ça me faisait vraiment à cœur de pouvoir le faire, en fait, de la façon dont on avait galéré avec cet allaitement et puis avec le précédent, de pouvoir le faire, j'étais contente de pouvoir faire ça.
D'accord. Là, Azélie n'est donc pas sevrée pour le moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages à un moment? Est-ce que tu pars sur un sevrage plutôt naturel ou donc c'est l'enfant qui décide à quel moment il veut arrêter de téter?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je m'étais pas trop mis de deadline parce que, étant donné que je suis tombée enceinte fin d'année dernière, je m'étais dit qu'avec la grossesse, ben, je pouvais pas prévoir ce qui allait se passer.
D'accord.
Si elle allait arrêter précocement, de manière induite, si voilà, je rêvais d'un sevrage naturel, mais j'avais arrêté de me mettre des deadlines dans la tête et je me suis dit bah on verra bien déjà jusqu'où on va. C'est déjà beau d'avoir allaité plus de 2 ans. J'étais déjà très contente.
Et comment ça se passe cet allaitement pendant la grossesse?
Ça a été chaud, ça a été chaud patate. Maintenant ça va, on a trouvé notre petit rythme. Tranquille, mais les douleurs du début, c'était vraiment très très dur. D'ailleurs, ça a entraîné de ma part, on est passé sur un allaitement à l'amiable et plus du tout sur un allaitement à la demande, parce que c'était même pas envisageable qu'elle tète 40 fois par jour avec des douleurs comme ça, qui sont complètement hormonales et normales, hein, mais à supporter, c'était
très dur. Oui, c'est normal d'avoir mal à l'allaitement durant la grossesse. Parce que l'allaitement pendant la grossesse, c'est quelque chose de très mal renseigné. Enfin,
ouais.
On ne trouve pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. Donc, c'est donc normal d'avoir des douleurs
c'est
si
possible.
On allaite pendant sa
Toutes
grossesse.
Les femmes n'ont pas mal. Certaines ont des douleurs hormonales, comme d'ailleurs cette sensibilité aux tétons qu'ont certaines femmes quand elles sont enceintes sans même allaiter. Hein. Sauf que là, ben, il faut savoir qu'il y a un petit être humain qui vient téter. Et du coup, ben, ça peut faire un peu plus mal, quoi.
D'accord. Et donc, du coup, il y a eu un moment où tu as eu envie que ça s'arrête.
Ah ouais, j'ai dit stop, c'est pas possible. Donc, on a réduit le nombre de tétés. Je disais, bah, c'est pour le dodo uniquement, pour essayer de l'accompagner au mieux, parce que quand même, elle avait rien demandé. Elle avait pas demandé ce petit frère et elle avait pas demandé à subir tout ça. Donc, on a fait au mieux pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a quand même restreint le nombre de tétés. Et puis, derrière, j'ai fait une aversion. C'est-à-dire que hormonalement, à un moment donné dans la grossesse, les femmes peuvent être amenées à avoir le sentiment de rejet total pendant la tétée de l'enfant qui tète.
D'accord.
Voilà.
C'est physique, vraiment.
Ouais,
t'as besoin de repousser l'enfant.
C'est viscéral. C'est un sentiment de colère. On s'en veut énormément, alors que on peut rien contrôler. C'est complètement normal. Et de ressentir ce genre de choses, et il faut pas culpabiliser de ressentir ça, mais on s'en veut énormément, et sur le coup on pourrait taper contre le mur, quoi. Enfin, c'est vraiment de la colère, de la haine, c'est du repousser l'enfant, quoi. On a juste envie de repousser.
C'est viscéral.
Ça s'arrête et la tétée est terminée, hop, tout part, tous ces sentiments s'en vont.
Ah ouais, ça a duré combien de temps, ça, pour toi?
Ça a duré au bien jusqu'au début du troisième trimestre.
Ouh, ah oui, ça fait long.
Ouais, c'était long. Et encore, il y en a certaines, ça dure tout long et ça dure même après. Il y en a certaines, ça s'arrête, ça revient. Voilà, ça dépend de chaque femme. Il faut savoir qu'il n'y a pas de schéma précis quand on est enceinte. On ne peut pas savoir de comment ça va se passer, ni comment l'enfant va se comporter quand il y aura une raréfication de la lactation ou un changement de goût quand on passe au colostrum.
Oui, parce que le lait peut changer de goût et en effet...
Il ne faut pas prévoir, il faut vivre au jour le jour et faire comme on peut, c'est déjà bien.
Et Azélie, elle le vivait comment, ça a été?
Ah, ça a été très dur, ce rejet-là, parce qu'elle, la raréfication ne l'a pas du tout dérangée. Elle passait en tétée réconfort, et puis pour s'endormir, et puis pour s'apaiser. Elle voyait que j'étais en colère, alors du coup, j'ai essayé de beaucoup lui parler pour lui expliquer que ce n'était pas de sa faute, mais alors c'est difficile de trouver les mots pour pas qu'elle en veuille non plus au bébé qui est dans le ventre.
Ouais, bien sûr.
Voilà, c'est tout un processus où son papa a beaucoup pris le relais, du coup, et maintenant l'endort tous les soirs, reste à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme et la rassure. Donc là, il y a eu un échange des rôles où c'est moi qui participe à l'endormissement d'habitude et c'est lui qui a pris le relais. Voilà, on fait la tétée tranquille avant de faire dodo. Là, on est à une tétée par jour en moyenne, une à deux si elle réclame plus. Et puis, c'est la tétée avant de faire dodo, la tétée réconfort pour libérer un peu d'ocytocine avant le sommeil. Et puis voilà.
Qui est l'hormone de l'amour.
Voilà, c'est ça.
Ok, bon là encore, vous avez formé une belle équipe avec ton conjoint pour pouvoir se relayer à un moment où c'était compliqué et qu'il fallait trouver un autre rythme que celui qui était confortable précédemment.
Exactement. Bah, c'était nécessaire. Un jour, un soir, il m'a entendu hurler. Mes émotions qui ont explosé. Il a dit, bon là, il faut qu'on trouve une autre solution. Ça ne fonctionne plus. Et on en a discuté pendant des heures jusqu'à trouver comment... on allait faire pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. On en a beaucoup parlé avec Azélie, qui est très très bien, en lui expliquant les choses et en lui demandant comment est-ce qu'elle pourrait aussi s'adapter de son côté. Voilà, en lui proposant des solutions en fait, et c'est elle qui choisissait. Est-ce qu'on fait plus de tétés ? Est-ce qu'on en fait une, mais on la fait courte et quand on dit stop, on dit stop ? Est-ce que d'abord papa il fait un gros câlin en portage ? Enfin voilà, on lui a proposé plein de choses, mais on a fait une genre de réunion de famille, réunion de crise quoi. Au secours, comment on va s'organiser ?
Conseil de famille. Azélie, que souhaites-tu pour la suite ? Ouais. Non, et puis tu tenais à ton allaitement, donc c'était dur aussi pour toi en fait cette situation. Là où c'était peut-être terrible. Une autre maman aurait décidé que c'était le moment de sevrer et l'aurait induit, toi c'était pas ton envie en plus, donc tu voulais continuer, mais physiquement c'était hyper dur.
Ouais, et puis à cet âge-là, sevrer c'est différent dans le sens où ils ont leur mot à dire parce qu'ils ils peuvent dire ce mot-là. Donc, ils savent quoi dire. Ils savent dire, non, mais c'est mon tété, en fait. C'est voilà, elle a rien d'autre. Elle n'a jamais eu de doudou. Elle n'a jamais ressenti le besoin d'avoir un objet de transfert. Et du coup, ben, c'est son tété, quoi. Donc, quand je lui explique...
C'est pour elle, il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Ouais, c'est ça. Pourquoi ça s'arrête ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je lui ai expliqué que le petit frère allait téter, alors là, qu'est-ce que j'avais pas dit ? Qu'est-ce que
t'avais
pas dit?
Bon, du coup, il y a encore un peu de boulot avant que le petit arrive pour faire comprendre que maintenant il va falloir partager.
C'est ça. Alors là, elle explique que le tété gauche, c'est le sien, le tété droit, c'est celui du bébé. Ça change tous les jours. Des fois, il n'a pas le droit, il aura le droit de manger des purées de carottes à la naissance. Donc voilà, on discute.
Il va falloir le diversifier à un mois et demi.
C'est ça.
Ok. Bon, alors ces expériences d'allaitement, Camille, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Qu'est-ce que ça a fait évoluer dans ta vie ? Parce
Absolument
que je sais que ça a fait évoluer plein de choses.
ça a tout changé dans le sens où ça m'a fait évoluer sur ma manière de voir la maternité, où j'étais dans un schéma ultra classique, je me posais pas de questions, ma mère a fait comme ça, je ferai comme ça. Mes grands-mères ont fait comme ça, je ferai comme ça, je suivrai le schéma classique. Et là,
elles n'avaient pas allaité, ta mère et ta grand-mère ?
Non. C'est, l'allaitement, ce n'est pas...
C'était pas
j'ai
énorme.
Pas du tout de schéma familial dans ce sens-là. J'avais d'ailleurs, je pense, jamais vu quelqu'un allaiter. Ce n'était pas quelque chose forcément de
naturel. Ça t'est vraiment tombé dessus avec cette tétée d'accueil
Exactement.
De ta première fille.
Et puis, du coup, je me suis intéressée à tout ce qu'il y a autour, donc maternage proximal. J'ai dû revoir toutes mes façons de penser parce que, ben, qui dit allaitement dit mode survie au tout début, cododo. Là, je me suis dit, oh là là, cododo, je vais jamais m'en sortir. Ma première, pas du tout été maternée. J'ai fait toutes les erreurs qui sont pour moi des erreurs dans ma vision des choses, à moi, dans ma famille.
Oui, bien sûr, dans ton référentiel.
Exactement, pour moi, qui ont été des erreurs pour Eileen, où j'ai rectifié le tir, j'apprends tous les jours, et il y a plein d'erreurs que j'aurais fait pour Azélie que je ne referai pas, où je vais changer encore une fois, j'apprends quotidiennement, mais c'est l'allaitement qui a fait que je me suis renseignée et qu'on a essayé différentes choses, je pense.
On pourrait dire que ça t'a permis d'ouvrir les écoutilles.
Ouais, exactement, de me poser des questions et de me rendre compte que ben c'était peut-être pas du tout cuit et que ça m'a appris à être maman, à moi.
Ça t'a appris à être maman, c'est joli.
Ben, je dis toujours que c'est mes filles qui m'élèvent. C'est vrai que c'est exactement ça, c'est elles qui m'élèvent et qui m'élèvent quotidiennement parce que c'est vraiment dur d'être parent. Et plus on les écoute, plus c'est facile.
C'est Catherine Guéguen qui dit ça. On n'a jamais dit que c'était facile d'être parent. Non. Ça va être dur, oui.
C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est beaucoup de remises en question. C'est énormément de doutes. C'est tout le temps douter.
Beaucoup douter, oui. Ouais. Mais avancer toujours.
Ouais, exactement.
Est-ce qu'on pourrait parler, en profiter pour parler de ton compte Instagram, Camille, parce que
ouais.
Je pense que les gens auront compris à travers l'interview que tu connais plein de choses, que tu es très renseignée, et ça peut paraître un peu fou pour une maman comme ça qui n'était pas du tout à la base d'en savoir autant. Alors raconte-nous, parce que c'est donc ces allaitements qui ont mené à ton compte Instagram et à ce que tu fais aujourd'hui pour les autres mamans, et je trouve que ce serait cool que tu nous en parles.
À la base, j'avais juste envie d'échanger sur ce sujet parce que j'ai remarqué pour Azélie que ben il y avait pas beaucoup d'infos qui circulaient, que moi j'avais dû me retourner vers une association, donc Nourrisources, qui est une association de marraines d'allaitement québécoise, pour trouver des solutions, que j'avais dû me débrouiller à patauger avec une amie que j'appelle ma marraine d'allaitement depuis. Qui allait être à 3 ans et demi, presque 4 ans. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas partager un petit peu tout ce que je vis. Donc à la base, c'était ça. C'était un compte qui s'appelait Camille DBM et qui parlait, qui, par poste, voilà, j'abordais un sujet, comment je vivais mes nuits, comment je vivais le retour au travail, ce genre de choses.
La maternité en général.
Ouais, voilà, c'est ça. C'était plus un compte maman. Et puis, en fait, j'ai eu envie de partir sur quelque chose de beaucoup plus informatif. Mmh. Toujours en rappelant que je ne suis que maman, que j'apporte de l'information parce que je suis complètement passionnée par le sujet et j'ai à cœur d'essayer de trouver des bonnes sources, que les mamans trouvent des infos justes et surtout sachent où se réorienter en cas de besoin. Je suis plutôt partie maintenant dans ce deal-là de réorienter les mamans sur des professionnels de santé formés pour se faire accompagner, se faire entourer. Et je suis persuadée, mon credo, c'est qu'il y a plus d'informations et un allaitement qui est entouré et partagé, c'est un allaitement qui peut réussir, quoi.
Ouais, t'as en fait juste pas envie que... T'as envie qu'il arrive au moins de mamans possible, ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé sur ton premier allaitement, finalement.
Exactement, je pense que c'est ça, j'avais besoin de ce partage d'expérience-là. Et du coup, je me suis mise en quête de rechercher des professionnels de santé comme toi qui s'intéressent à l'allaitement, qui s'intéressent aux freins restrictifs, qui s'intéressent à plein de choses, qui se forment, qui sont toujours là, toujours présents pour les mamans et dans la bienveillance. Parce que c'est déjà assez dur quand on traverse des difficultés dans son allaitement, c'est déjà assez dur de les traverser. C'est mieux si on peut être accompagné dans la bienveillance.
Ouais, tout à fait. Donc ton compte maintenant, il s'appelle
Camille Lolo Helpeuse.
Lolo Helpeuse. Lolo Helpeuse.
Je pense que tout le monde aura compris.
Tout le monde aura compris, ouais, le pourquoi du comment du nom du compte.
Voilà, c'est ça.
Donc ouais, voilà, pour résumer, Camille, un nombre incalculable de mamans la contactent pour avoir des conseils rapport aux problèmes qu'elles rencontrent durant leur allaitement. Puis Camille, elle essaye de faire un premier tri, elle émet éventuellement des hypothèses, mais à aucun moment elle fait de diagnostic.
Exactement.
Et puis elle réoriente aussi via leur blanc association, hein, vers, ouais. Vers un réseau de professionnels qu'elle sait bien formés sur ces sujets-là. Et qui vont pouvoir vous accompagner, quelles que soient les difficultés autour de l'allaitement.
Ouais, en règle générale, c'est ça. J'essaie de donner des contacts de marraines d'allaitement dans leur département, de professionnels de santé qui sont formés ou informés ou sensibles à l'allaitement maternel. Voilà, les IBCLC autour de chez elles, qu'elles puissent se sentir entourées et qu'elles aient un petit carnet d'adresses. Je les encourage vraiment à se faire ce petit carnet avant même l'accouchement pour avoir tout ce qu'il faut le jour J si elles en ont besoin.
Toi, tu leur conseilles de se préparer
ouais.
avant l'accouchement ?
En fait, je me dis que plus on est informé, plus on est préparé, mieux ça peut se passer. Si le jour J, on se rend compte que bébé tète pas ou tète mal et qu'on a mal à la maternité, prendre son téléphone, dire allô, je prends l'exemple de Catherine parce qu'on connaît toutes les deux Catherine, je pense beaucoup à elle, qui est IBCLC dans la région parisienne. Allô Catherine, au secours, du coup ça se passe pas comme prévu mon allaitement, est-ce qu'on peut se voir à la sortie de la maternité? Et déjà elles sont plus sereines en se disant je vais être entourée quoi.
Ouais, je sais que j'ai quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner là-dedans.
Voilà, il y a des solutions, je serai pas en panique. Et puis avoir une marraine en se disant, bah, à 23h, j'envoie un message. Bon, il a 3 semaines, ça fait 4 heures qu'il est au sein, là, j'en peux plus, je veux tout arrêter.
Est-ce que j'ai encore assez de lait?
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu penses pas que mon lait, il ne nourrit pas assez?
Et du coup, la marraine qui peut répondre, mais t'inquiète pas, tu veux qu'on s'appelle? Voilà, enfin, c'est tout un processus, je me dis que plus on est accompagné dans ces premiers moments-là, dans ces premières semaines, ces premiers mois, mieux ça peut se passer.
Yes, ok. Merci beaucoup, Camille.
De rien, merci beaucoup.
Est-ce qu'on aurait pu oublier quelque chose dont tu aurais envie de nous parler?
Je crois que il y avait des petites questions à la fin dont tu m'avais parlé par rapport.
Ah, mais bien sûr, l'interview Fast Milk. Ah, t'inquiète pas, tu vas pas y couper.
Je vais trop vite, là.
Non, t'as essayé de finir avant l'heure.
Pardon,
non, on va faire l'interview Fast Milk. Très bien, si tout a été dit avant, alors on
crois
y va.
Que c'est bon. Hein.
Alors Camille, interview Fast Milk avant de se quitter. Quelle est ta tétée la plus insolite?
J'hésite entre devant le Vatican. C'était quand même pas mal. Et à l'intérieur du Colisée, on s'est retrouvés 3 mamans allaitantes sur un banc de bambins, donc il y avait plus d'un an, 2 Italiennes et moi-même, et ça, j'ai trouvé ça juste dingue, c'était trop bien.
Vous avez pu échanger?
Difficilement. Machiavelli, voilà. Okay. Ça n'a pas arrêté là. Mais il y avait beaucoup de regards et beaucoup d'amour, et c'était beaucoup de. Du coup, on se sentait juste comprise, on se sentait bien, quoi.
Ok. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, tes allaitements.
Le plus glamour.
Ça peut être ironique.
Ouais. Je pense que les fuites de lait, c'était hyper glam. J'adorais avoir des belles taches sur mes t-shirts. Ça, c'était du bonheur. J'ai quand même eu des fuites jusqu'à 15 mois. Hein.
Ah ouais, pas mal.
Ouais, c'est génial, les coussinets d'allaitement, tout ça. Ouais, ça, j'adorais.
Ouais, la fuite en pleine journée sur ton t-shirt.
Ouais. Ah, il y a quand même une fois, sans faire exprès, ma fille tétait. Donc, il faut savoir qu'avec avec la succion un peu désorganisée, j'avais un REF, donc un réflexe d'éjection fort.
Et alors là, c'est quand le sein éjecte le lait.
Très, très fort.
Comme un jet, quoi. Hein,
très loin,
simplement,
c'est ça. Et j'ai des amis de ma maman qui arrivent, qui viennent pour me dire bonjour. Ma fille devait avoir 4 mois. Elle s'enlève du sein, bah, il s'est fait arroser. Hein. Il s'est pris une douche de lait. C'était. Voilà, je me suis excusée.
Douche de lait, mais c'est bon pour la peau, c'est cicatrisant, c'est anti-infectieux, c'est génial.
Mais au final, c'est un cadeau que je lui ai fait. C'est juste qu'il n'a pas compris.
Bien sûr. C'est juste que sur le moment, il ne l'a pas ressenti ainsi.
Non, c'est ça, exactement. Je me suis sentie un peu mal.
Ta position préférée, Camille, dans le Kama Sutra de l'allaitement?
Quand elle a ses pieds sur ma tête, parce que faut dire que les tétés acrobatiques à partir de
les tétés du bambin peuvent vite, ouais, ça peut commencer à être acrobatique quand les enfants grandissent.
Ah ouais, c'est terrible. En pleine nuit.
Donc ta préférée, c'est quand elle a ses pieds sur ta tête.
Ouais, non, c'est peut-être pas la position préférée. Non, moi c'était la Madone, classique.
Tout simplement, classique. Et si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements, alors un mot pour chaque allaitement, évidemment, puisque ce sera probablement des mots très différents.
Pour Eileen, c'était de la découverte. Je pense que ça le résume bien et on va rester sur une note positive, même si ça n'a pas été aussi positif que ça. C'était de la découverte, ça m'a permis de découvrir
D'accord.
tout ça. Et puis pour Azélie, c'était un vrai combat, tout le long. Mais,
D'accord.
Mais c'est... Voilà, c'est un vrai combat.
Ok, super. Bon, merci beaucoup Camille d'avoir répondu à toutes mes questions, d'en avoir profité pour nous informer en même temps, parce que du coup c'était un épisode mi-maman, mi-informatif, et c'était super. À une prochaine, j'invite encore une fois vous maman qui avez des questions, des interrogations sur votre allaitement et qui souhaitez avoir du soutien, vous pouvez contacter Camille ou contacter Laure Blanc Association qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous orienter correctement pour que votre allaitement puisse continuer sereinement.
Merci beaucoup Charlotte, c'était super et je suis pressée de te revoir et merci pour ce que tu fais, c'est merveilleux.
Merci Camille, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour cet épisode. Camille, je te dis à très bientôt et les autres, à bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be there ». Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voice is in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. Can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. Guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back in. I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. I'll be there. I'll be there.